cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeudard le 19 décembre 1991.
Ne peut être qu'un signe que notre intelligence ne peut pas s'arrêter à la recherche de la cause selon la forme. Il y a autre chose que l'intelligence saisit dans la réalité et qu'elle exprime par le verbe. L'action. Il faut maintenant essayer de voir comment les prédicaments qui sont la manière dont nous regardons l'homme, les prédicaments ne peuvent pas entièrement expliqué par le point de vue de la substance. Il y a dans les prédicaments une exigence d'aller plus loin. Le prédicament représentant cette description première que nous faisons de la réalité la plus parfaite que nous expérimentons nous-mêmes. Et l'ami, et tous les hommes. Puisque les prédicaments sont ce premier contact que nous avons avec la réalité. L'action et la passion que nous pouvons décrire et que nous avons tous l'expérience. Nous agissons sur ceux qui sont autour de nous et nous bâtissons. Les uns bâtissent plus qu'il s'agisse et d'autres agissent plus qu'ils ne bâtissent. Oui. Ordinairement, on parle des grandes gueules dans la vie commune. Et ceux, au contraire, qui sont tout à fait cachés, qui bâtissent et qui ne disent rien. Les pivoines et les violettes. C'est un fait, on constate ça. Je crois que là, ça fait partie de cette expérience que nous avons de nous-mêmes et de ceux qui sont autour de nous. Nous n'avons pas choisi dans la vie commune. Nous sommes entrés en même temps que quelqu'un qui, de fait, ne cesse de nous cacher. Il est gardien de notre humilité. Au contraire, nous sommes entrés avec quelqu'un qui, de fait, est toujours à l'ombre de nous. C'est une chose très curieuse, hein, l'action que nous avons les uns sur les autres. Et le fait de bâtir, ceci ne peut pas s'expliquer entièrement par le point de vue de la substance. Parce que la substance est source de détermination. Et il y a quelque chose de plus dans le dynamisme propre d'un être. Mais quand vous dites a une vulnérabilité très particulière. Il ressent tout. Vous avez une question de sensibilité. Oui, c'est sûr. Au point de vue de la philosophie du vivant. Oui, c'est là où on voit très bien comment la philosophie du vivant ne s'explique pas uniquement par le point de vue de la substance. On dit l'âme pour le vivant est plus que la substance. On ne pouvait pas l'expliquer uniquement par le point de vue de la substance. Et on dira que l'âme est acte du vivant. Et quand on dit que l'âme est acte du vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que c'est peut-être la première expérience que nous avons de ce que représente l'acte. Quand on dit que l'âme finalise le vivant c'est nous, hein, puisque du chien c'est difficile d'avoir l'expérience de son âme. Il y a un petit quelque chose quand il pleure, mais il pâtit. Ou quand il mord, il a une âme vigoureuse. Il veut emporter le morceau. Alors on voit bien que il y a dans l'âme quelque chose de plus que uniquement l'aspect formel. Et j'ai le droit, puisque normalement la philosophie première vient en dernier lieu, au point de vue de ma réflexion. Dans la philosophie du vivant, il y a toute la question de l'opération immanente. Alors, il y a l'opération immanente d'amour qui implique un aspect extatique. Je suis attiré vers le bien. Le bien attire. Et cet aspect extatique ne peut pas s'expliquer par la pure immanence de l'âme qui informe le corps. Phénomène très, très particulier. Et je crois qu'au point de vue d'expérience, c'est peut-être là où nous sommes en premier lieu intrigués. Comment se fait-il que je peux sortir de moi, aller vers quelqu'un, que tout ce que j'ai assimilé comme vivant ne me suffit jamais? Alors vous retrouveriez ça aux différents niveaux de la vie. Au niveau de la vie végétative, la procréation. Est-ce que la procréation n'exprime-t-elle pas un appel intérieur de l'âme de surabonder? L'individu vivant ne se suffit pas. Il doit lutter contre sa corruptibilité. La corruptibilité du vivant, il est voué à la mort. Et il y a quelque chose qui dépasse là, qui est un appel vers quelque chose. Et tous les anciens ont toujours saisi là comment il y avait un dépassement à l'égard du temps. Comme quelque chose d'éternel que nous portions en nous. Je crois que je ne peux pas expliquer la procréation uniquement par le point de vue de la substance. L'âme en tant que substance. L'âme en tant qu'elle forme du corps. Il y a un dépassement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet appétit du vivant à se reproduire. Cet appétit naturel de l'homme à se reproduire. Donc, être victorieux de la corruptibilité. Être victorieux du temps qui abîme. Le temps par lui-même use, dépasser cette usure. C'est un fait. On peut développer ça longuement, mais on verrait ça partout. Il y a quelque chose qui ne peut pas s'expliquer uniquement par le point de vue de la cause formelle et de la cause efficiente. Vous voyez, le dépassement du devenir chez le vivant. Puisque c'est le devenir qui est mesuré par le temps. Il y a un appel vers quelque chose de plus, un dépassement. Dans les sensations, il y a l'immanence de la sensation. Mais il y a quelque chose de plus aussi, le fait que le vivant par l'imagination. La mémoire, c'est le passé. Mais la mémoire nourrit l'imagination. Et l'imagination veut toujours dépasser le présent. Comment se fait-il que je vis dans le futur? Je projette ce souci constant. En soi, cela. On porte en soi cette capacité de dépassement imaginaire, mais il est quand même un dépassement. Une sorte d'espérance et la passion espérance qui est le signe, du moins qui est un appel vers une victoire. Alors ce serait intéressant de voir l'irascible et le concupiscible. Vous voyez, au plan psychologique, le concupiscible, c'est la vulnérabilité. Les êtres qui ne vivent que du concupiscible sont toujours des êtres battus d'avance, énormément battus. Et les normands victorieux. Et l'irascible, c'est l'appel vers le dépassement et la victoire, l'espérance. On porte en soi cela. Il y a quelque chose en moi, au niveau psychologique, par le point de vue des passions, qui montre un appel vers quelque chose qui n'est pas encore là, qui vient. Et qui est pour moi un appel à une victoire. Oui, la victoire ne s'explique pas par le point de vue de la substance et la plurimanence. est curieux, ça, point de vue psychologique. Et on sait très bien qu'il y a des psychologies défaitistes et des psychologies optimistes. Il y a des gens qui sont tout le temps à regarder toutes les défaites qu'ils ont eues et qui restent tout le temps dans les défaites. Et ça reste indéfiniment. Et qui n'ont pas assez de vitalité pour voir que demain ça ira mieux. Qu'il y aura quelque chose qui me fera sortir de l'ornière. Là, un dépassement de l'immanence du vivant. C'est très vrai que le vivant ramène tout à lui-même. Et le vivant a aussi cette capacité de sortir de lui. Et ceci s'exprime dans mon irascible. C'est pour ça que les psychologues savent très bien que c'est terrible de tuer l'irascible. Vous voyez, au fond, qu'est-ce qui a tué l'irascible chez beaucoup? C'est l'autorité. L'autorité trop forte d'un père. Maître, d'un homme politique. C'est difficile de dépasser De Gaulle pour la France. Oui. C'est très curieux. Et politiquement, il y a un affaissement. On voit très bien comment une autorité trop puissante a arrêté tout l'élan de l'irascible. Les colères, psychologiquement, vous savez bien, montrent que la vitalité revient. Un psychanalyste est heureux de voir que son patient se met en colère. Ah, bon signe, il commence à revivre. Et celui qui n'est jamais en colère, il dégringole. Ça ne veut pas dire qu'on doit proclamer qu'il faut que tous les novices se mettent en colère tous les jours, parce qu'alors ça n'irait plus. Mais c'est un signe d'une vitalité qui fait sortir de l'ornière. L'angoisse est de l'ordre de l'immanence. On se replie tout le temps sur soi. On sort de soi. Donc, est inscrit dans mon psychisme que le point de vue de la substance chez le vivant n'explique pas tout. Serait très intéressant de voir comment la scolastique décadente, qui n'insiste plus que sur la substance, fait qu'il y a quelque chose qui progressivement va disparaître chez les gens bien qui veulent être dans la vérité. Tueront tout leur élan nouveau, toute leur initiative. Ça, je crois que c'est assez net de voir cela. On a ramené tout, vous voyez, à une ousiologie. Donc, on ne voit plus que cela. Au point de vue de la vie de l'intelligence, toujours au point de vue philosophique du vivant, hein. Je regarde les opérations vitales. Mon âme, qui s'exprime à travers ces diverses opérations, 3 degrés de la vie. Il y a quelque chose dans la vie de l'intelligence qui est l'analogue à la fécondité. qu'à l'analogue de l'assimilation. L'appréhension assimile. Comment se fait-il que certaines philosophies et la scolastique décadente ne voient plus que l'assimilation? Quelqu'un comme Jean de Saint-Thomas, qui pourtant est un grand scolastique, insiste énormément sur l'assimilation. Et le jugement, très peu. C'est curieux que la substance, la déesse qui est présente dans la maison, comme dit Platon, qui demeure, ça explique toute l'immanence. Alors quand on ramène l'être à la substance, on ramène toute la vie à l'assimilation. On ramène toute la vie de l'intelligence à l'assimilation. C'est l'appréhension qui prend tout. Et on n'a plus cet irascible intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire, hein, mettez entre guillemets, c'est métaphorique. Cette force de conquête. Et la force de conquête dans la vie de l'intelligence, c'est toujours adhérer au réel, s'affronter au réel. Il faut beaucoup de force intellectuelle. Les intellectuels qui sont pris uniquement par l'immanence n'osent plus s'affronter au réel. Ils vivent dans leur méditation perpétuelle. La réflexion de la fille de Mère Blobonti à 16 ans, c'est pas drôle d'avoir un père philosophe. S'il m'a dit ça. Alors je dis pourquoi? Eh oui, il pense toujours. Il ne s'intéresse plus à nous. On vit dans son immanence. Et on n'est plus curieux d'atteindre rien. On n'est plus curieux d'aventure intellectuelle. Il n'y a plus ce dépassement constant. On rumine tout le temps. L'idéalisme, c'est la victoire absolue, qui n'est pas une victoire, parce que c'est une défaite, de l'immanence de la vie intellectuelle. Et on invente les idées innées. C'est le comble. J'ai toujours, je n'ai qu'à me rappeler tout, le Ménon de Platon. Qui montre ça de façon admirable. Je n'ai qu'à me rappeler tout ce que j'ai vécu, mais j'ai tout en moi. Donc, il n'y a plus du tout cette découverte de quelque chose qui me permet d'aller plus loin, de découvrir quelque chose qui me réveille. On vit un peu en somnambule intellectuel. Puis on est tranquille avec soi, parce qu'on est toujours avec des idées. Et les idées, c'est pas méchant. Tandis que la réalité peut être méchante. La réalité peut m'obliger de tout reprendre. Le jour où la théorie l'emporte sur la réalité, on ne progresse plus. Et on construit des choses étonnantes peut-être, mais c'est dans l'immanence. La vitalité de l'intelligence, c'est le jugement qui me permet de m'affronter à l'autre. Quand on dit que l'autre, c'est l'enfer, c'est le signe de l'abdication totale de l'intelligence qui ne veut rester qu'en elle-même. Vous voyez, Là, il y a autant de signes qui montrent qu'une philosophie qui s'arrête à la recherche de l'ousia est une philosophie qui, au fond, se suicide, qui se chloroforme. Elle s'enferme en elle-même. Elle ne veut plus se dépasser. Il n'y a plus de curiosité. Il n'y a plus de jeunesse. Pourquoi se ramène à une source immanente où je peux faire l'inventaire de tout ce que je possède, de toutes mes idées, mais je ne vais pas plus loin. Il y a une peur de l'autre, une peur de se perdre dans l'autre. Je crois que vous êtes très attentif à ça. Et la philosophie du vivant est un appel à un dépassement de la substance. Comment l'âme est plus que source d'immanence. L'amour est la vie de l'intelligence. Alors l'amour avec un point de vue extatique. Et cet amour, quand il est parfait, se trouvera en éthique, dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, qui est le point de départ de l'éthique. L'amour d'amitié qui me fait toucher un dépassement de moi-même vers mon bien, vers l'autre au sens très fort, l'autre qui devient mon bien. Mais juste l'inverse de l'enfer. C'est vrai. Si c'est mon bien, c'est pas mon enfer. Et on dira, mon ami, tu es mon paradis. Quand tu n'es pas là, tout est triste. Tandis que toi, tu es vraiment là où je peux me reposer. Là où j'ai la sécurité. Mais c'est un dépassement de soi. On n'a pas de sécurité en soi, mais sur l'autre. On s'appuie sur l'autre. C'est très spécial. Et c'est vrai que l'amour d'amitié impliquant la réciprocité fait appel à quelqu'un d'autre que moi qui me finalise. Qui me finalise l'expérience de la finalité. Cette expérience de la finalité que de fait est présente au point de vue de la philosophie de l'âme. Finalité de toutes mes opérations vitales. Toujours quelque chose. L'enfant qui est le fruit de la procréation finalise le vivant de vie végétative. Toute ma vie végétative est finalisée par l'enfant. Donc par un autre. C'est pas le même que l'ami, c'est un autre. Très important, hein, la philosophie de l'autre, Lévinas, qui cherche toujours à savoir ce que c'est que l'autre, et qui, comme il reste dans une tradition qui pratiquement reste en grosse partie idéaliste, n'arrive jamais à atteindre l'autre. Il tourne toujours autour. C'est peut-être une piste qu'il faut bien découvrir cela. Parce que je vois ça dans l'amitié. Je vois ça dans la procréation. Cette hantise de l'autre. Et d'un autre qui vient de bois. D'un autre qui à la fois est semblable à moi, donc qui me donne une sécurité parfaite. Et en même temps est autre que moi. Cette chose très très grande. De l'amour d'une mère pour son enfant. De l'amour du père pour son fils. Alors est-ce que la mère aime plus le semblable et le père l'autre? Regardez ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose comme ça dans la différence de l'amour de la mère. C'est pour ça que la mère, un père captatif, c'est très rare. Il a mieux de mettre son fils à la porte. Tu restes tout le temps à la maison, tu peux bien gagner ta vie maintenant. Hé, hey, fiche le camp. Ça, c'est le père qui dit ça. La mère, mais non, mon petit, au lieu que tu restes, là, tu es la sécurité. Il est mieux qu'il reste à la maison. Parce qu'elle capte. Oui, c'est curieux, là. On voit bien que dans l'amour d'amitié, c'est l'autre. Mais il y a un amour d'amitié captatif aussi. Et dans l'autre, je garde celui qui est semblable à moi. Parce que j'ai peur de celui qui est différent, qui est autre. Et il peut y avoir comme ça une mort de l'amour d'amitié. Parce que l'autre comme tel m'échappe. Il y a un peu la même chose dans l'irascible, c'est l'autre. C'est le bien difficile qui est l'autre. Tandis qu'en concupiscible, c'est le bien facile, celui qui est semblable et que je peux capter. Et dans l'intelligence, le jugement saisit l'autre, celui qui est irréductible. Alors c'est curieux, voyez, de voir qu'au fond, c'est l'autre qui est toujours là, qui ne s'explique pas par le point de vue de la substance. La substance, c'est la source de l'immanence, de la détermination que je possède en moi et qui me permet de tout ramener à moi. Je vois donc que si je réfléchis sur les diverses parties de la philosophie, dont j'ai déjà fait l'analyse, je vois que la découverte de la substance au niveau philosophie première, au niveau métaphysique, est capitale. Elle est première, mais elle ne suffit pas. L'action et la passion ne s'expliquent pas par le point de vue de la substance. S'explique pas entièrement. C'est tout un aspect que j'explique par la substance. L'aspect de la similitude. Et je n'explique pas ce besoin de l'autre. Cette nécessité de l'autre. Et on pourrait presque prendre la parole de la tradition religieuse, le jugement de Dieu, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. La substance explique la solitude. C'est vrai, le troisième katoto, c'est le solitaire, pas la substance. La substance a cet immense avantage, c'est que, justement, je me suffis à moi-même. Ni ceci n'est vrai momentanément, il n'est pas vrai profondément. Vous voyez, ce qu'il faut essayer de trouver les traces de l'acte dans toutes les parties de la philosophie et où je suis obligé de me poser la question comment l'être est autre en lui-même. La similitude, et c'est vrai, l'être implique la similitude, mais l'être tel que je le constate dans les diverses parties de la philosophie implique l'autre, dont j'ai souvent peur. Je comprends très bien que c'est un signe de vitalité de m'affronter à l'autre. Quand je suis un peu terrorisé, je lève les ponts, je m'enferme dans ma forteresse. L'ipsolipsisme de l'idéaliste. Et si l'autre s'approche, je lui lance de la poix. J'ai pas besoin de toi. Je suis beaucoup mieux en moi-même et uniquement en moi-même. Il n'y a que moi qui m'intéresse. Je m'intéresse qu'à moi. L'autre, il exprime toujours que je suis limité. À ce point-là, il est très ennuyeux. Il m'empêche d'être satisfait de moi-même. L'autre, il est là pour toujours me rappeler que je dois sortir de moi. Et j'ai froid. J'ai pas envie de sortir de moi. Vous voyez, on voit très bien ça. Il fait froid dehors. Alors on n'a pas envie de sortir. C'est ici une très curieuse, hein. Essayer de découvrir, ça c'est très important, parce qu'autrement, pour la philosophie, la métaphysique de l'acte de la puissance, la plupart du temps, on ne s'y accroche pas parce qu'on ne s'est pas posé la question. On se pose la question de la substance immédiatement. Tout égocentrisme se pose la question de la substance. Mais le dépassement de soi ne peut pas se satisfaire de la substance. Il y a autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cet autre que je vois dans toutes les parties de la philosophie? Et je le vois dans la philosophie de la nature, le devenir. Ah, le devenir fait appel à la cause efficiente. Ça, c'est sûr. Mais la cause efficiente ne se suffit pas à elle-même. Le devenir physique implique autre chose. Il implique l'acte. Et le devenir physique impliquant l'acte montre bien que la cause efficiente de suffit. Parce que le devenir physique dans le monde saisit au niveau philosophique, pas au niveau vital, pas au niveau scientifique. Alors peut-être c'est là où on va voir l'affrontement. Le devenir physique implique tout le temps l'ordre vers une fin. Le devenir physique, le plus physique qui soit, implique un ordre vers l'autre. Et ceci se manifeste alors très fortement dans la philosophie de l'art. Le travail qui modifie la matière. Et le travail est ordonné vers l'autre. L'œuvre. L'œuvre, c'est l'autre. Et l'œuvre fait que l'artiste ne peut pas demeurer dans la joie d'avoir une intuition, une idée. C'est vrai, c'est exaltant d'avoir des idées. C'est exaltant d'être inspiré. Mais je ne peux pas demeurer dans l'immanence de l'inspiration. Demeurer dans l'immanence de l'inspiration pour un artiste, c'est progressivement détruire son inspiration. Une inspiration se détruit si je ne peux pas la réaliser. Elle demande la réalisation. Elle demande l'œuvre. Et l'œuvre, c'est justement de pouvoir contempler l'inspiration dans un autre. Et l'inspiration ne peut être parfaitement elle-même que dans l'œuvre. Là encore, je vois au niveau de la philosophie de l'art que l'artiste est tout entier tendu vers son œuvre. Il est pris par l'œuvre. Il est saisi. Et un artiste qui n'est pas saisi par l'œuvre n'est pas un véritable artiste. L'idée, fruit de l'inspiration, dépasse tout le point de vue de la forme. Il y a quelque chose qui oriente vers l'autre, l'œuvre. Et l'œuvre est autre que l'artiste. Qui explique comment l'artiste, quand il a œuvré, quand il a réalisé l'œuvre, il y a des artistes qui ne veulent plus regarder ce qu'ils ont fait. Ils ont presque un dégoût. C'est fini. Je ne veux plus le regarder. Il y a des artistes, au contraire, qui aiment de se regarder dans leur œuvre. Pour trouver, voyez, irascible et concupiscible. L'irascible de l'artiste et le concupiscible de l'artiste. Il y a des artistes qui veulent garder tout ce qu'ils ont fait chez eux, surtout pas d'exposition, surtout pas vendre mes œuvres. Je ne les vends pas, je les veux chez moi. Ils ont une propre exposition chez eux. C'est un signe très curieux, là. Et puis il y a l'artiste au contraire. Faites sans ce que vous voulez, ça m'est égal, c'est terminé. C'est plus moi, c'est d'autres. Il y a les deux tendances, irascible et concupiscible. L'immanence et le dépassement. Vous retrouvez donc à l'intérieur de toute l'enquête philosophique ce double mouvement. Un mouvement qui fait qu'on retient. Un mouvement qui fait qu'on sort de soi, on se quitte pour aller vers l'autre. Alors on dira psychologiquement une mentalité extravertie, une mentalité introvertie. Et c'est vrai. Et l'équilibre psychologique consistera à ordonner l'un vers l'autre et ne pas faire que l'un prenne tout. Un être purement extraverti est très fatigant. On dira, tais-toi, tu es tout le temps à vouloir sortir de toi. Et un être purement introverti, on cherchera la petite lucarne par laquelle on pourra été malmené dans sa vie. Mais c'est les gosses qui, lorsque on s'approche de lui, il lève tout de suite le bras pour se défendre. Parce qu'il a reçu tellement de coups. Il ne peut plus supporter l'autorité. Introverti. Au sens le plus fort. Parce que dès qu'il rencontre quelqu'un d'autre, c'est le gendarme. C'est l'autorité. L'autre, c'est l'autorité. Alors c'est insupportable. Parce que ça m'arrête tout le temps. Alors, il serait intéressant, vous voyez, de voir tout ce qui est dans l'ordre de l'immanence et tout ce qui sort de l'immanence et qui me fait aller vers l'autre. Ceci pose au philosophe la grande question. Qu'est-ce qui dans l'être commande l'extraverti? Qu'est-ce qui dans l'être commande d'être tourné vers? Ah, je retrouve la relation. Si j'étudie la relation, je vois que c'est que l'être n'est pas uniquement tourné vers lui-même, il est tourné vers un autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire au point de vue de l'être? Qu'est-ce que ça représente au point de vue de l'être? Comment comprendre que l'être est autre? Et que c'est encore l'être? Comment l'être dépasse le point de vue de l'immanence? La vie est être. Comment dans la vie il y a tout le temps le double mouvement, et que l'équilibre vital implique ce double mouvement? J'assimile et je m'affronte. Vous voyez comment le sens de la victoire, c'est la conquête de l'autre. Mais la conquête de l'autre qui fait que l'autre reste autre. Parce que si je détruis l'autre pour me l'assimiler, il n'y a pas de victoire. C'est très important, ça. Ce qui montre très bien comment la gloire peut supprimer la victoire. Parce qu'on ramène tout à soi. Et que la victoire n'existe que si l'autre existe encore, comme témoin de ma victoire. Si je l'assimile entièrement, il n'y a plus de victoire. L'autre disparaît. Et la disparition de l'autre diminue ma capacité d'être. Je crois que je peux saisir assez facilement qu'elle a un problème philosophique énorme qui dépasse le problème de la substance, qui d'une certaine manière me met en présence qu'est-ce que c'est que la fin. Parce que justement le problème de la fin, c'est le problème de l'autre. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de fin. Il n'y aurait plus d'une finalité qui s'imposerait à moi. C'est pas commode pour nous à découvrir ça, parce que de fait, nous sommes dans l'immanence de l'idéalisme depuis 4 siècles. Et nous sommes dans la perte de l'autre depuis 7 siècles. Je comprends que Lévinas a de la peine de le retrouver. Mais au moins, il a le mérite de le poser la question. L'autre. Comment je découvre l'autre en respectant l'autre? Parce que j'ai la tendance de le manger. Et je crois le découvrir en le mangeant. Mais en le mangeant, je le détruis. suis pas du tout l'autre. Je me l'assimile. Comment l'être contient en lui-même l'autre? Ah, je crois que là, c'est là où je pose la question. Quelle est la finalité de l'être? Comment l'être en lui-même fonde la finalité? Au niveau philosophique, au niveau philosophie première, donc au niveau métaphysique. Puis-je, autrement dit, puis-je fonder sur l'être la finalité? Cette finalité que j'ai découvert en philosophie du... en philosophie de l'art, que j'ai découvert en éthique, que j'ai découvert en politique, que je découvre dans la philosophie de la matière, que je découvre dans la philosophie du vivant. Est-ce que je peux découvrir dans l'ordre de l'être la fin? Est-ce que la fin est être? Ou est-ce que la fin n'est qu'au niveau de l'opération? La question posée l'autre jour. Est-ce que la fin, je ne la découvre que comme terme du devenir, mais qui reste toujours lié au devenir? Ou est-ce que la finalité peut être au-delà du devenir, dans l'ordre de l'être? C'est la question métaphysique d'aujourd'hui. Parce que je crois profondément que si je ramène toute ma métaphysique à une ousiologie, je détruis ma métaphysique. Et je comprends très bien comment Heidegger dit la métaphysique est terminée. Elle s'est elle-même terminée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus voulu regarder le problème de la finalité. Le suicide de la métaphysique, c'est de ne plus regarder la finalité et donc s'enfermer dans une ousiologie. Une métaphysique qui n'est plus que la métaphysique de la substance se suicide elle-même. Elle n'a plus d'intérêt parce qu'elle s'est renfermée sur elle-même. Au fond, c'est une métaphysique honteuse. Une métaphysique honteuse se renferme en elle-même et ne regarde plus que le passé. Il n'y a que le passé qui est intéressant. Il y a eu un âge métaphysique. On avait dépassé l'âge métaphysique. Nous ne sommes plus dans l'âge métaphysique. Nous sommes dans un âge de la technique et de l'efficacité. Et la finalité, c'est fini. C'était bon pour nos ancêtres. C'était bon pour la chevalerie. Mais nous, non. Non, non. Nous sommes des gens pratiques, efficaces. Et c'est terminé. Vous voyez, c'est vraiment une métaphysique honteuse qui se réfugie dans le Moyen-Âge, dans le passé. C'est très, très bien dans le musée. Mais c'est pas du tout la réalité actuelle. Vous voyez, comprendre la mort de la métaphysique, telle que Heidegger le dit, c'est très intéressant. Pourquoi la métaphysique s'est-elle suicidée? Et à cause de quoi la métaphysique s'est-elle suicidée? C'est pas la mort de Dieu, c'est la mort de la métaphysique. Dieu ne peut pas mourir, la métaphysique peut mourir. Puisque elle est œuvre humaine, donc elle peut mourir. Comment se fait-il que la métaphysique s'est suicidée? Comment la scolastique s'est-elle suicidée? On a raison de dire qu'il ne faut plus qu'elle existe. Yam fait d'être. Elle sent déjà mauvais. On n'a fait qu'à la laisser dans le sépulcre. Et c'est un fait, je dois constater ça. Comment un Heidegger a pu dire que la métaphysique était terminée? Heidegger a claironné l'enterrement de la métaphysique. Et on a tous trouvé qu'Heidegger avait raison. C'est quand même très grave, et on vit cela. Comment les idéologies athées ont-elles pu dire que Dieu meurt ? La mort de Dieu. Comment ça se fait, ça ? Eh bien, je crois que c'est parce que la métaphysique de l'acte, la philosophie première de l'acte, a avorté. On n'a plus osé regarder la finalité au niveau de l'être. On a dit, elle est métaphorique. Alors, premier signe du clan de la métaphysique, dont Scott. Et dernier signe, Heidegger. Comment se fait-il que Heidegger aime tellement Don Scott ? Il y a une parenté entre les deux. De Don Scott à Heidegger. Et ça, l'histoire me montre comment, avec Don Scott, la métaphysique devient honte.